My gang will get you.
Les enfants du Nouveau Monde, une émission de Céline Elodie. Même si on nous en parle très peu, le monde est rempli de belles choses. Des humains en marche, des initiatives pleines de bon sens et d'humanité. Nous sommes tous une étincelle de cette transformation. Avec les enfants du Nouveau Monde, partons à la rencontre des terriens d'ici et des humains de là-bas, des enfants de la Terre qui aiment notre planète, qui croient en leurs rêves et qui créent un monde meilleur par leurs actions quotidiennes. Aimer l'humain, humer l'humus, humilité, avec humilité. Bienvenue sur Terre, enfants du Nouveau Monde.
Hey man, you want girls? I show you a good time. This place has everything. Come on, I show you.
Salut à vous, les fidèles de la bande FM. Alors aujourd'hui, dans Les Enfants du Nouveau Monde, je donne la parole à Thierry Pardot. Thierry est docteur en philosophie de l'éducation et c'est un pionnier qui a su mettre la recherche au service de la vie. Il étudie et il prône les éducations sans école. C'est d'ailleurs ce qu'il vit avec ses propres enfants. Je l'ai enregistré lors d'une de ses conférences à Supagro à Florac. Alors, si vous êtes prêts pour une aventure passionnante, eh bien, je vous laisse avec ce pirate de l'éducation. Larguez les amarres du connu et voguez vers le nouveau monde.
Donc, ben, voilà, je m'appelle Thierry, puis je fais un pèlerinage à peu près une fois par an à Supagro. Je suis un peu ami de la famille, finalement. Et puis, voilà, je suis éducateur à l'environnement depuis longue date. Je suis chercheur associé à l'UQAM. Je travaillais 4 ans à la chaire de recherche du Canada en éducation relative à l'environnement. Et puis voilà, mais je suis surtout en fait papa de ces deux garçons-là qui n'ont jamais été à l'école. Enfin si, en fait, ils ont été 2 mois à Hispaniac quand j'étais venu en 2010 ici. Donc on va parler d'éducation, on va parler d'environnement aussi parce qu'on va voir que finalement, il y a une importance entre les deux. Alors on est en Anatolie, vous savez, l'ancienne Turquie. Alors, vous savez que les peuples nomades se sédentarisent un petit peu dans ce coin-là, il y a quelques 6-7 000 ans. Ils se sédentarisent non pas grâce à l'agriculture, mais à cause de l'agriculture, évidemment, hein, puisque à partir du moment où ils ont commencé à avoir des graines à stocker, ils ont fait des silos, ils ont fait des remparts autour des silos pour pas qu'on leur vole, et que donc c'est l'agriculture qui a sédentarisé, et non pas l'inverse, hein, comme on a souvent tendance à le penser. Alors, en Anatolie, à ce moment-là, quand on veut du blé, enfin, c'était pas tellement du blé, c'était plutôt de l'épeautre, mais bon, on va dire du blé, mettons, eh ben, il fallait marcher. Vous savez, il fallait marcher longtemps et on ramassait son blé. Et alors, on avait des coins à blé, vous savez, comme il y a des coins à champignons qu'on se donnait sur les lits de mort. Vous voyez, donc c'était des trucs. Voilà. Alors ça prenait du temps, hein, puisqu'il fallait marcher beaucoup pour trouver de temps en temps un épi de blé. On voulait regrouper tout ça au même endroit, ben, qu'on aurait des gros coins à blé, ben, ce serait beaucoup plus simple. Et que finalement, ça nous arrangeait, on avait moins à faire d'efforts. Ça poussait. Alors tant pis s'il y avait quelques plantes au milieu, mais bon, au moins, on avait du blé en concentration. On s'est dit aussi, un petit peu plus tard, que si on n'avait vraiment que du blé qu'on plantait tout le même jour pour récolter tout le même jour, eh bien ce serait encore bien plus simple, évidemment. Et comme on voulait que ça aille un petit peu plus vite, on y a mis des intrants chimiques. C'est l'histoire de, vous savez, de l'industrialisation de l'agriculture, d'accord ? Alors il y a 3 dangers à cette histoire-là. C'est des dangers intellectuels, pas de panique, restez assis. Le premier, c'est la confiscation du vocabulaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je dis je suis agriculteur, en fait, sous-entendu, je fais partie de l'agriculture pétrochimique. Ça, c'est le normal, en fait. Et si je ne fais pas ça, alors il a fallu réinventer des mots. Par exemple, si on revient là, comme ça, donc ça c'est normal, vous voyez, ça, c'est l'agriculture. Là, vous voyez, je peux dire que je fais du bio intensif, mais bio parce que voilà, je n'ai pas mis les intrants chimiques. Puis là, je vais dire, je fais de l'agroécologie. Vous savez, les paysans, ils ont été bons pour remettre du vocabulaire. Puis ça, c'est la zone 4 de la permaculture. Vous voyez. Donc, finalement, pour désigner ce qui s'était toujours fait, on a réussi à s'inventer des mots parce que l'agriculture pétrochimique avait capturé, en fait, le vocabulaire. Le deuxième danger, c'est la croyance que c'est l'agriculteur qui fait pousser le blé. Et que s'il n'y avait pas d'agriculteur, il n'y aurait pas de blé. Donc il y a toute une action pour pouvoir avoir un résultat, sinon ça ne pourrait pas se faire tout seul. Voilà. Le troisième danger, c'est la création d'une science, en l'occurrence donc l'agronomie, qui vise à aider l'agriculteur. C'est-à-dire qu'on a créé toute une science pour résoudre les problèmes que l'agriculteur pouvait avoir. Mais ce n'est pas une science qui concerne le blé, vous savez. Le blé, il n'a rien demandé, lui. Je n'ai jamais vu un grain de blé assister à un cours d'agronomie. Ce n'est pas fait pour lui. Et bien voilà, merci d'être venu. Non, non mais comme je ne pouvais pas faire l'impasse sur l'agriculture vu le lieu qui nous accueille et l'institution qui nous accueille. Allez, on continue. On aurait pu évidemment prendre comme exemple, j'ai pris l'agriculture, mais j'aurais pu prendre la santé, l'industrialisation de la santé ou du travail. C'est la même chose, hein, d'accord ? On a suivi le même phénomène et à peu près dans la même époque, au même temps. Alors on va parler d'éducation maintenant. Ben, on va dire que dans l'histoire des mammifères, c'est plutôt à la famille, à la communauté proche de s'occuper des enfants en fait. C'est comme ça qu'un enfant grandit, voilà, avec la proximité de sa famille et voilà. Ça c'est un petit peu l'histoire de l'humanité, mais aussi des mammifères. Mais on s'est dit que si on voulait aller un petit peu plus, si on voulait faire passer un message d'une façon plus efficace, eh bien on va regrouper tout le monde. Vous voyez, on va mettre tout le monde dans la même salle. Vous savez, la petite maison dans la prairie, vous vous rappelez ça? Oui. Vous voyez, le même bâtiment qui servait à la fois d'école la semaine et d'église le dimanche. Alors que le même bâtiment serve à la fois d'école et d'église. Vous voyez, bon, je vous laisse réfléchir à ça. Mais alors, on voit des gens qui ont différents âges, etc. Alors, c'est un petit peu compliqué. Ce qui fait que, on s'est dit que si on classait tout le monde par date de fabrication et qu'on semait tout le même jour pour pouvoir tout récolter le même jour, le jour du bac, eh bien, ce serait quand même beaucoup plus simple. Et comme on trouvait que ça allait pas assez vite, et encore, je vous passe, vous savez, les écoles où on avait les filles d'un côté, les garçons de l'autre, etc. Et comme on trouvait que ça n'allait pas assez vite, et bien on y rajoutait les intrants chimiques. Donc on se retrouve dans exactement la même histoire de l'industrialisation du monde. Et là, c'est l'industrialisation et bien de l'éducation. Et on retrouve les trois mêmes dangers. La confiscation du vocabulaire. Sauf que les éducateurs ont été un peu moins malins que les paysans. Et du coup, ils n'ont pas réussi à inventer du vocabulaire. Quand je dis « ils », enfin, je devrais dire « nous », on n'a pas réussi à s'inventer du vocabulaire pertinent. On va y revenir sur le vocabulaire. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, quand vous baladez dans la rue, ça s'appelle l'école à la maison. Voilà. Alors, évidemment, on ne fait pas l'école et on ne reste pas à la maison. Mais c'est comme ça qu'on le nomme, vous voyez ? Toujours en référence à l'école. Alors, on a utilisé des mots comme « unschooling »,« unschooler », tu sais, mais évidemment, vous savez, quand je marche, je ne dis pas que je suis un non-cycliste, vous voyez. Donc, on n'a pas réussi à se trouver un mot pour se dire, voilà. Donc, le deuxième danger qu'on retrouve, c'est la croyance que l'enseignant fait grandir l'enfant. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y avait pas d'une intervention, comme tout à l'heure, il n'y aurait pas de blé, et bien là, il n'y aurait pas d'apprentissage. L'enfant ne grandirait pas, ou en tout cas, il grandirait mal. D'accord ? Donc, il faut absolument une intervention extérieure. Ça, c'est la deuxième croyance. On va y revenir, évidemment, largement. Et puis, la création d'une science qui vise à aider l'enseignant, les sciences de l'éducation. Et de la même façon qu'on n'a jamais vu un grain de blé assister à un cours d'agronomie, on n'a jamais vu un enfant assister à un cours des sciences de l'éducation. C'est-à-dire, on va lui parler de chimie, on va lui parler de trucs hyper compliqués, d'équations au quatrième degré. Mais le seul truc dont on ne lui parlera jamais dans toute son enfance, la seule matière qui n'est pas enseignée à l'école, c'est l'éducation. Parce que ce n'est pas fait pour lui. Comment dire ? C'est pas lui qui doit savoir ça. Ça résout pas son problème à lui. Lui, il a pas de problème. Ça résout le problème de l'enseignant. Alors là, on arrive vers quelque chose où on voit que se départagent l'enseignement et l'apprentissage. Alors, on a tendance à considérer que s'il n'y avait pas d'enseignement, il n'y aurait pas d'apprentissage. D'accord ? Ce qui est une erreur, évidemment. On va essayer de se le prouver. Vous savez, on va dire, allez, demain, on décrète, c'est la journée pas d'apprentissage. D'accord ? Demain, vous dites, j'apprends rien. D'accord ? Ou vous partez en voyage et vous vous dites, moi je pars mais je ne veux rien apprendre. Essayez. Vous allez voir, ce n'est pas facile de rien apprendre. D'accord ? Donc l'apprentissage, c'est un effet secondaire à la vie, en fait. Il y a des apprentissages qui sont volontaires, mais même si on ne veut pas, eh bien, on apprend. Et si on est dans un endroit où on n'a pas le droit de parler, eh bien, on apprend à ne pas parler. On apprend à lever la main pour aller pisser, on apprend à tout ça. D'accord ?
Va dire l'histoire d'une jolie fille normande qui s'appelait Marie-Loulou et qui était futée comme toutou. Quant à l'école, il fallait qu'elle se rende de son copain le gars Lucas. Lucas lui disait on y va papa, faisons l'école buissonnière, nous baignerons dans la rivière. Au lieu d'apprendre des leçons, on va prendre des papillons. J'y vas-ti ? J'y vas-ti pas, j'y vas-ti. Qu'est-ce disait ? Il faut-y pas, il faut-y. Si j'y vas pas, le maître il verra. Et chez moi, tout le monde le saura. Oh, mais je vais m'embêter là-bas, si j'y vais, tous les petits oiseaux chanter. N'y va pas, quel beau soleil qui lit le galuca. Allons cueillir des lilas. Marilou se dit comme ça. À l'école, on y lit, au lilas, on lit pas. J'y vais, oui. À 15 ans, elle ne ratait point une danse, elle, au bal, les gars l'invitaient, elle, et pour elle se disputer, elle avait de la mesure et de la cadence, elle, le gars Lucas qu'en était fou. Fou! Il a dit, t'aimes-tu les bijoux? Si tu veux, viens demain toute seule, je t'attendrai derrière la meule, dans le pré du père Léonore, je te donnerai une bague en or. Oh, j'y vas-t'y, qu'est-ce qu'il disait? Il faut-y, si j'y vas pas, quoi donc il dira? Mais si j'y vas, quoi que c'est qu'il me fera? La mère, elle dit toujours, prends garde au gars, je voudrais bien savoir là-dessous, quoi qu'il y a, il me donnera la bague si je vas là-bas, et je l'auront point si j'y vas pas. Marilou se dit comme ça, moi les bijoux j'aime ça, tant pis, j'y vas, oui! Le lendemain, l'heure de père discutèrent. À ton gars, tchik ti donnera, hein? Et que ta fille, tchik alora, hein? Enfin, ils sont passés devant monsieur le maire, et puis après des bons gueules tonton, des danses et des belles chansons, chez eux ils déshabillèrent, et soufflèrent la lumière. Elle monta dans le grand lit, hésitant, Lucas se dit. J'y vas-t'y, tu viens-t'y pas? Qu'elle lui dit, comme il dirait, il se purène dans les droits. Marilou dit, prends-moi dans tes bras. Mais à ce moment-là, en bas, quel fracas, tous les invités appelaient le gars Lucas, et sans doute pour qu'il ne s'endorme pas, lui chantait ce refrain-là. Tu vas-t'y pas, Lucas, bah, moi j'y vais! Bah, moi j'y vais! Et bah, moi j'y vais!
C'était les Tzigales qui illustrent combien nos chers enfants, à l'heure d'aller à l'école, rechignent. J'y vas-t'y pas. Mais l'école, est-elle le seul moyen pour apprendre? Thierry Pardot, chercheur indépendant en sciences de l'éducation, démontre que non. Car comme le disait Confucius et comme le prouvent aujourd'hui les neurosciences, plus le maître enseigne, moins l'élève apprend.
Donc on ne peut pas ne pas apprendre. L'apprentissage, on apprend un tas de trucs qu'on ne nous a pas enseigné, on nous a enseigné plein de trucs qu'on a oubliés, qu'on n'apprend plus, mais ce n'est même pas un besoin d'apprendre. Vous comprenez? On n'a pas besoin d'apprendre. On apprend et c'est tout. On apprend parce qu'on vit, en fait. Vous voyez la logique? Alors évidemment, vous pouvez vous dire, oui, bon, alors ça c'est complètement marginal, c'est tout à fait farfelu comme vision de l'éducation. Alors le problème, c'est que ça vient se confirmer non seulement par les neurosciences qui sont très actives depuis une dizaine d'années, mais en plus, par exemple, lui, là, alors Philo Zarum, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un homme compliqué, un peu latin, lui, c'est mon meilleur ami. Depuis le printemps dernier, on a identifié cet organisme-là. Alors vous voyez, on lui fait faire plein de jeux, là, résoudre des labyrinthes, etc. On lui fait aussi, par exemple, on l'a mis dans une situation où il y avait de la nourriture. Ben, lui, il était là, il y avait de la nourriture qu'il n'aime pas, qui n'est pas toxique, mais qu'il n'aime pas. Puis on y a mis un peu plus loin de la nourriture qu'il aime. Alors au début, il niaise un peu, vous voyez, il tourne et machin. Finalement, il finit par trouver la nourriture qu'il aime. Le deuxième jour, on prend le même organisme, on le met dans la même situation, il met un petit peu moins de temps. Puis encore là, à la fin de la semaine, il y va tout droit. Donc, on a conclu que c'était de l'apprentissage, qu'il avait appris où était la nourriture qu'il aimait. Alors, ce Philosarum polycéphalum, je pense que ça s'appelle, c'est un être monocellulaire. Vous voyez, c'est un noyau avec un truc autour, quoi. Donc, pas de cerveau, pas de système nerveux, pas de... Vous voyez, c'est monocellulaire, quoi. Alors, si on se demande est-ce que nos enfants apprennent, vous voyez ce que je veux dire? Bon, la question se règle assez vite, d'accord? Alors, dans le club des farfelus, qui soutiennent un petit peu ce que je viens de vous dire, on est quand même quelques-uns. À commencer par Confucius qui dit « plus le maître enseigne, moins l'élève apprend ». Alors ça paraît être une gageure en fait, ça paraît être un mot d'esprit. Mais si on cherche à comprendre un petit peu ce que ça veut dire. Bon, imaginez, vous avez un ami qui vous écrit de Tokyo et qui vous dit « ah ben viens me rendre visite à Tokyo, tu sais, voilà, hop, prenez l'avion, partez une semaine à Tokyo ». Là, il vient vous chercher à l'aéroport, il vous amène chez lui, il tire un écran, il vous assoit et il vous explique. Alors Tokyo a été fondé, nanana, le socle minéral, l'histoire, l'économie, les peuples qui ont vécu là. Alors là, il vous donne des documentations, il vous fait remplir des QCM, il vous dit, ah, tu vas faire un projet, tu vas voir, là, il va falloir que tu recherches, là, par Internet, bon, etc., etc. Et à la fin de la semaine, il vous ramène à l'aéroport, vous avez votre diplôme, évidemment, et il vous dit, alors, ça t'a plu, Tokyo? D'accord? Donc, son enseignement n'a non seulement pas permis l'apprentissage, mais l'a empêché. Vous comprenez? Des apprentissages authentiques. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Parce que si vous aviez rien su de Tokyo d'un point de vue historique, intellectuel, etc., mais que vous étiez perdu dans tel endroit, vous vous retrouvez dans un mariage, vous vous faites inviter, enfin j'en sais rien, vous gardez des souvenirs pour le reste de votre vie, comprenez? Alors que là, tout ce qui vous a dit, dans deux semaines, c'est fini, vous l'avez oublié. C'est Charles Caouette, le fondateur des écoles alternatives au Québec, qui dit, vous savez la différence qu'il y a entre un bon et un mauvais élève? C'est deux semaines, en fait. Il y en a un qui oublie une semaine avant l'examen, l'autre qui oublie une semaine après l'examen. Mais voilà, donc c'est un peu ça. Donc voilà, plus le maître enseigne, moins l'élève apprend. Vous avez tous entendu Montaigne, enfin, pas lui personnellement, mais en tout cas, à l'école, on vous a toujours dit, la tête bien faite, la tête bien pleine, vous savez, vous rappelez de ça, de Montaigne? Mais en fait, quelques paragraphes plus loin, dans le même chapitre, hein, et Montaigne cite Cicéron, mais ça, les profs nous le montraient moins, l'autorité de ceux qui enseignent nuit la plupart du temps à ceux qui veulent apprendre. C'est le même chapitre, hein, c'est quelques paragraphes plus loin. Donc, voilà. Évidemment, Illich, bon, si je le cite, on va dire que je triche parce que c'est un copain, mais les enfants sont par définition des apprentis, enfin, en tout cas, vous savez lire, hein, donc je ne vous les lis pas. Mais en tout cas, le résultat d'une participation sans entrave dans un environnement chargé de sens, c'est quand même assez puissant. Voilà. Freire, grand pédagogue brésilien, personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque tout seul. Les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. Goldsmith, on le connaît, hein, vous le connaissez, Goldsmith, dans le monde de l'éducation à l'environnement. C'est lui qui avait créé The Ecologist. Il a été prix Nobel alternatif et tout ça. Ce n'est pas pour faire de l'argument d'autorité, mais je veux dire, c'est quand même quelqu'un de connu. Et voilà, que l'éducation dans une société écologique doit être de nouveau assumée au niveau de la famille et de la communauté. Ça, c'est dans son livre, Le Tao de l'écologie. Ad nauseam, je peux vous en sortir des citations comme ça. Allez, on finirait par Rousseau, par exemple. La liberté est le seul instrument qu'on n'a pas encore essayé depuis qu'on se mêle d'élever les enfants, le seul précisément qui peut réussir. D'accord? Et ça, c'est il y a quelques siècles, là, quand même. Donc voilà. Donc finalement, ce que je veux dire, c'est que ça peut paraître farfelu de séparer l'éducation, enfin en tout cas l'enseignement de l'apprentissage, mais comme on est quelques-uns dans le club des farfelus, merci de ne pas nous mettre de côté trop vite, vous voyez, peut-être de prendre le temps d'y réfléchir. D'accord? Voilà. Alors, on cherche des mots, hein, je vous ai dit, pour nommer ce qu'on fait. Alors là, on a un grand courant dans nos milieux d'éducation, pas d'école, là, qui est de nommer de cette façon-là. Apprentissage autonome, libre apprentissage, auto-apprentissage, apprendre sans éducation, apprentissage authentique, etc. Alors moi, je ne suis pas non plus très à l'aise avec ces mots-là, tout simplement parce que quand on le nomme comme ça, pour éviter de parler d'un prof, vous voyez ce que je veux dire, on a balayé tous les autres, vous voyez. Parce que dans tous ces mots-là, ils sont où les autres? Et c'est pas bon non plus. Donc finalement, quand on parle de ça à un inspecteur, par exemple, qui vient voir ce qu'on fait avec nos enfants, si vous lui dites « je fais l'école à la maison », vous tirez une balle dans le pied, parce que c'est pas ça que vous faites. Mais si vous dites « ah, je fais de l'auto-apprentissage », ça veut rien dire non plus pour lui, vous comprenez? Moi, je vois bien de quoi on parle, mes enfants ne sont jamais allés à l'école, mais c'est pas de ça qu'on parle. Enfin, vous voyez, les mots ne correspondent pas. Il y a même des gens qui sont allés encore plus loin à parler de sans-éducation, vraiment de détricoter le mot éducation, n'en retenir que sa dimension aliénante et de dire, oh là là, dès qu'il y a éducation, il y a aliénation. Parce qu'un éducateur, un éduqué, un dompteur, un dompté, un colonisateur, un colonisé, il y a toujours un « heure » qui sait mieux que le « et », ce qui est bon pour le « et ». D'accord? Donc avec vraiment quelque chose d'aliénant et de condamner le mot éducation, etc. Moi, je ne vais pas jusque-là, mais je peux vous dire, il y a des gens qui le font. Voilà. Donc, il y a tout un débat autour de cette notion d'éducation. Hein. Il y a un détricotage, quoi. Alors évidemment, quand je dis ça ne me convient pas, parce que l'auto-apprentissage, l'apprentissage autonome, l'apprentissage authentique, etc., je connais pour ma part qu'un seul exemple d'un enfant qui a vraiment vécu ça dans les termes, c'est lui, c'est Victor de l'Aveyron, vous voyez. Lui, effectivement, il était en auto-apprentissage, autonome, authentique, etc. Lui, il n'y avait pas d'autre autour. Ce qui a fait que, eh ben, là, c'est le film de Truffaut. Alors évidemment, ils ont pris un enfant normal, vous voyez, pour faire l'acteur. Mais sinon, le vrai Victor de l'Aveyron marchait à quatre pattes, parce qu'il n'avait aucun besoin de marcher à deux pieds, puis il ne voyait personne autour marcher à deux pieds. Il ne parlait pas, parce que à quoi bon, à qui? Donc, et c'est depuis lui, vous savez, que... En fait, quelles que soient les sciences humaines que vous étudiez, on vous parlera toujours de Victor de l'Aveyron, parce qu'il a changé à la fois les conceptions religieuses, les conceptions alors en psychologie, en socio, en philo, en éducation, en biologie, enfin, etc., etc. Donc on a besoin finalement de définir nos pratiques. On a besoin de se dire, ben, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'apprentissage? C'est quoi l'éducation? Et j'ai passé quelques 20 ans finalement à essayer de répondre à cette question-là. Je n'ai pas fini, hein. En me disant que la graine est toujours bonne, vous savez. C'est mon ami André Stern qui dit, quand vous plantez, vous savez, un avocat avec le verre d'eau et les cure-dents, là, vous voyez, et que ça pousse, vous ne dites pas, ouais, non, c'est parce que je suis tombé sur un avocat surdoué. quand vous plantez une carotte et que la carotte pousse, vous ne dites pas non, mais c'est normal, c'est parce que là, c'est vraiment c'est exceptionnel. La carotte, elle pousse toujours, vous voyez ce que je veux dire ? Sauf si la graine est tombée sur l'autoroute. Là, c'est plus compliqué. Donc, ce n'est pas une question de graine. L'enfant, est-ce qu'un enfant est capable d'apprendre ? Oui, un enfant est toujours capable d'apprendre. Mais apprendre quoi et comment ? Donc, nous, en tant que parents, éducateurs, etc., notre rôle, c'est le jardin, ce n'est pas la graine. La graine, il n'y a pas vraiment besoin de s'en occuper. D'accord ? La graine, elle va pousser. Et la salade, il n'y a pas besoin d'y tirer dessus ni de la mesurer pour la faire pousser plus vite. Ça ne sert à rien. Hein. Par contre, nous, on est responsable du jardin. C'est ça notre travail. Et même en tant que prof, éducateur, ben, quel jardin on crée, quoi ?
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mâles vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones.
Pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs,
rien ne te retient.
Va vite,
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas,
ici tu n'as rien.
Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre, dis-toi qu'au bout il y a la mer
et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et compare-le à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le saignent? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde de tout son orgueil.
Sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots. Car un lopin de terre, une tige de roseau
servira la croissance de tes marmots. Servira la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!
C'était Trio avec l'hymne de nos campagnes. Vous écoutez Les Enfants du Nouveau Monde, consacré aujourd'hui à l'éco-éducation ou l'éducation pirate, hors des sentiers battus. Thierry Pardot en a fait son sujet de recherche. Et si toutes les graines sont bonnes, alors la seule responsabilité des éducateurs est de créer un jardin fertile. Mais alors, de quoi doit être fait cet environnement éducatif pour être fertile ?
Alors c'est la question que je me suis posée autour de quelques années d'études et quelques ouvrages et quelques réflexions. Et donc j'ai fait une recherche pour ça, pour répondre à cette question-là. De quoi doit être fait l'environnement éducatif, finalement ? Alors je suis allé d'abord voir dans la littérature, je n'ai pas retenu tout le monde, mais j'ai retenu 4 auteurs, finalement, parce que, rue Célestin Freinet, on est là, hein, donc j'étais obligé de le citer quand même, ces 4-là prétendaient avoir trouvé des choses universelles, invariantes, etc. Donc voilà, un lien constant, invariant, qui conférerait en même temps un caractère universel. Donc j'ai dit, ben moi ça m'intéresse, voir comment grandit un enfant. Des fondamentaux chez Morin, David Sobel qui lui a étudié des enfants qui jouaient. Et il s'est dit, ils jouent toujours de la même façon, peu importe d'où ils viennent, d'où ils sortent, de leur richesse, leur ethnie, etc. Ils jouent toujours de la même façon. C'est drôle parce que derrière, il dit, du coup, les éducateurs, quand vous mettez en place une activité, il faut que ça soit conforme à la façon dont les enfants jouent. Et vous voyez le biais, c'est pourquoi mettre en place une activité si anyway ils vont jouer de la même façon, vous voyez ce que je veux dire? Donc pourquoi pas les laisser jouer tout seuls? Voilà. Et puis Faure, qui avait fait une école alternative aussi dans la forêt de Rambouillet, en même temps que Freinet à l'époque, là. Et donc la nécessité de développer intégralement le corps, l'intelligence, la conscience, en un mot, l'être tout entier. Alors je les ai invités un soir à manger à la maison, leur demander s'ils étaient capables de se mettre d'accord sur une définition. Donc un processus de distillation là, qu'on connaît un petit peu dans la recherche, pour voir qu'est-ce qui était important pour eux quatre. Vous voyez, est-ce qu'ils étaient d'accord sur quelque chose? Et voilà, ils se sont mis d'accord, je les ai un peu aidés, ils se sont mis d'accord sur cette phrase-là. Offrir de l'espace pour l'observation, l'exploration personnelle, l'activité physique, entretenir la motivation par la bienveillance, un rapport doux à l'autorité, favoriser un rapport à la connaissance juste en enseignant la complexité, on reconnaît Morin, là, en faisant preuve de conscience, en ouvrant sur l'imaginaire et le sensible, un peu plus Sobel. Favoriser l'entraide et la collaboration à l'intérieur du groupe, Faure insiste beaucoup là-dessus. Voilà. Je précise que ces quatre-là n'ont jamais été anti-école ou quoi que ce soit. Les quatre sont bien, bien, bien dans le système. Hein. Enfin, dans le système alternatif et tout ça, mais enfin, en tout cas, dans l'enfant en classe, quoi. Donc ça, c'était le premier ingrédient de ma recherche. Je vous rappelle la question, de quoi doit être fait l'environnement éducatif? Premier ingrédient, un peu de littérature. Deuxième ingrédient, les apports de l'éco-éducation, c'est-à-dire ce que moi j'appelais l'éco-éducation, l'école à la maison. Comme on n'a pas de nom, je me permets d'en inventer, vous voyez. C'est de l'éducation dans l'oïkos, vous voyez, dans l'environnement favorable. Voilà, c'est un petit peu pour ça que je l'avais appelé comme ça. Puis vous savez ce que c'est, hein, c'est que un docteur qui dit une connerie, c'est une doctrine, alors on s'autorise. Donc je suis allé prendre mon bâton de pèlerin et je suis allé cogner aux portes des gens qui n'envoyaient pas leurs enfants à l'école en disant, ben voilà, on appelait ça l'école à la maison, mais concrètement, c'est quoi? Vous faites quoi? Vous vous levez à quelle heure? Ça se passe où? Comment ça marche? Je suis arrivé, après bon, quelques temps de recherche, à trouver qu'il y avait quatre axes finalement dans leur journée qui étaient très très importants. La pédagogie de projet, alors on connaît bien ce que c'est, hein, est-ce que tout le monde sait ce que c'est ou est-ce que non? Oui? Non? Bon. Pédagogie de projet, exemple, vous trouvez une chenille. Ah, c'est quoi comme chenille? Alors on va à la bibliothèque, on prend un livre, on reconnaît la chenille. Alors qu'est-ce que ça mange? Parce que chaque chenille mange quelque chose de particulier. Alors on va faire un vivarium, on va aller chercher les plantes. Alors comment on construit un vivarium et quelle taille il faut? Et puis finalement, il se développe. Si on a une femelle, est-ce qu'il y a des œufs? Enfin, là, là, là. Et finalement, la chenille qu'on a trouvée, c'est une activité avec suivi, on en fait 3 semaines. Vous voyez? Donc c'est ça, pour faire très court là. Mais en gros, voilà, c'est quelque chose avec suivi. Deuxièmement, l'utilisation des infrastructures éducatives non formelles. Alors vous savez, nous à Montréal, on a les cartes du jardin botanique, du centre des sciences, du biodôme. Donc on utilise beaucoup les musées, les parcs et toutes les activités informelles. Non formelles, du genre on va aussi chez le pâtissier, on va à l'Orchestre symphonique de Montréal. Donc on utilise beaucoup, on est toujours en vadrouille avec ça. Troisième truc, c'est la mise à profit de la découverte nature. Ceux qui ont la chance d'avoir un espace nature autour d'eux, eh bien évidemment, les enfants sont toujours dehors. Pour ça. Et nous, moi je suis en ville, alors mais on va souvent camper, on voyage, etc. Et l'insertion dans un réseau social, ben, tout simplement comme les enfants qui vont à l'école, sauf que nous en plus, comme on ne va pas à l'école, si je vous dis le programme de mes enfants, c'est un truc de fou en fait. S'ils allaient à l'école, ce serait n'importe quoi. Mais comme ils n'y vont pas, vous voyez, ça se passe bien. Ben voilà, le club de foot, enfin bon, etc., etc. Donc voilà à quoi ressemble à peu près une journée d'enfant qui ne va pas à l'école. C'est le deuxième ingrédient. Troisième ingrédient, ben, le voyage. Alors là, vous savez, quand vous dites « Ah, nous, on fait l'école à la maison », alors tout le monde vous dit « Ah, mais vous vous inquiétez pas, le pauvre, votre enfant. » Il a dit « Non, mais en fait, on voyage, on fait le tour du monde. »« Ah, mais c'est génial, la chance qu'il a. » Donc, quand vous voulez retourner quelqu'un sur un 10 sous, comme on dit au Québec, eh ben hop, vous pouvez plugger le voyage, ça marche bien. Ah oui, je fais un petit détour méthodologique de recherche, vous savez, parce que là, on m'a dit « Mais moi, j'ai étudié les apprentissages de mes enfants en voyage. » Alors pendant mon doctorat, alors c'est évidemment oulala, mais l'objectivité, la distance critique et la vraie science et tout ça, etc., etc. Alors évidemment, j'aurais dit non, mais moi je fais de l'éco-anthropologie familiale, vous voyez, donc tout de suite, ça sonne mieux. Mais on me dit, oui, mais ça n'a pas de valeur scientifique tout ça, parce que étudier ses propres enfants n'a aucune valeur scientifique. Alors, je suis allé chercher des gardes du corps, Piaget, évidemment, qui a écrit toute sa psychologie des enfants sur ses 6 enfants qu'il a observés à la maison. Freud, qui a testé en premier la psychanalyse sur sa fille. Le docteur Itard, qui s'est occupé de Victor de l'Aveyron. Évidemment, Darwin, qui a étudié les mimiques de ses nourrissons pour les comparer à certains primates, etc. etc. J'ai dit, donc, si ça n'a aucune valeur scientifique, il faudrait que vous sortiez de vos bibliothèques universitaires, Freud, Piaget, Darwin. Puis, si vous sortez cela, il va peut-être falloir en sortir d'autres. On va faire de la place, oui. Donc, voilà, j'ai eu mon doctorat, tout va bien. Je reviens au voyage. Alors, on apprend d'abord du voyage, le voyage en tant que tel, parce qu'il y a toute la préparation. On ne se prépare pas au voyage, mais on se prépare à voyager. Vous comprenez ? On ne dit pas, on prépare les valises, de quoi tu vas avoir besoin, etc. Il y a en cours de route, on modifie. Là, on est sur un bateau. Vous savez, sur un bateau, vous ne partez pas quand vous avez dit que vous partiez. Vous partez quand vous êtes prêt. Sinon, c'est un suicide, d'accord ? Donc, on modifie les itinéraires, les cartes, les routes, etc., etc. Donc, on retravaille ça tout le temps. Les apprentissages sont liés aux interactions avec d'autres. Parce qu'effectivement, en route, on rencontre plein de monde. Et puis là, ben, ça, c'est l'occasion d'échanger, de ne pas parler la même langue, de parler autrement, enfin, etc., etc. Les apprentissages au contact de la nature. Alors surtout pour nous qui sommes des petits urbains, nos enfants qui sont en ville, et bien évidemment, il y a tout ce qui est découverte, l'empathie que ça génère, les petits enfants, vous savez, les fourmis, etc., ça, pas ceux qui les écrasent, encore que. La compréhension des choses, les aménagements, la cabane, le lieu, on arrive, on tire une bâche parce qu'il fait chaud, on mange dessous, enfin, ouais, etc. Et la frugalité que ça nécessite aussi. On n'est pas à la maison, on n'a pas tout le confort qu'on voudrait, alors on est obligé de choisir, on ne peut pas tout prendre. Voilà. Les apprentissages qui sont liés à des lieux historiques, naturels ou culturels, là évidemment, quand on est en voyage, c'est pas pour faire les cours du CNED, parce que quand on est devant les pyramides, d'accord ? Non, finis tes mathématiques. Oui, le théorème de Thalès, qui a été élaboré, lui, évidemment, devant les pyramides. mais voyez, donc, je ne sais pas, la mosquée cathédrale de Cordoue, le Taj Mahal, le Mont Rochemort, ou, j'en sais rien, vous voyez ce que je veux dire ? On a une vie à vivre, là, on a autre chose à faire que faire des cahiers, quoi. Et puis, les apprentissages liés aux activités. Parce que là aussi, on va rencontrer des activités qu'on ne pourra jamais faire à la maison. Je prends un exemple, on traversait les États-Unis, on est dans le Wyoming, on passe à Cody, qui est la ville de Buffalo Bill, là, finalement. Alors là, on retrouve, c'est le rodéo annuel. Alors bon, ben, vous savez, on va aller voir ce que c'est. Et puis là, du coup, ils appellent les enfants à venir chercher un truc sur une vachette qu'il lâche, etc. Et là, mon fils de 4 ans qui était là, il dit, ouais, alors du coup, il a participé à une espèce de rodéo pour enfants, là, vous voyez, mais qui était quand même assez authentique, finalement, au milieu des cow-boys qui chantent l'hymne national avec le chapeau sur le cœur, etc. Donc, c'est pas, je fais pas une célébration de ça, je dis simplement qu'il a jamais plus participé à un rodéo de sa vie, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on fait des activités qu'on pourrait jamais faire ailleurs. Et puis, les apprentissages sont liés au retour. Vous avez tous vécu le truc, vous êtes partis 6 mois en Inde, et là, vous rentrez, vous rencontrez des gens qui, eux, sont restés là, puis vous dites, alors ? C'était bien. C'est ça. Et c'était bien. Vous voyez comment. Alors, il faut apprendre à se raconter, d'accord ? Comment on va garder trace de notre voyage ? Un carnet de dessin, un carnet de route, des photos, un film. Comment on va garder trace ? Et comment on se raconte ? On ne peut pas raconter 6 mois de voyage. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va raconter une anecdote. Puis finalement, ça va se placer comme un conte. Vous savez, au début, il sort tout croche. Et puis finalement, on le distille. Et puis, on arrive à trouver une version où, paf, là, ça y est, ça marche. On sait qu'en le disant comme ça, ça fonctionne, etc. etc. Donc, le récit de voyage, c'est un peu comme ça que ça arrive. Donc, vous voyez, tous les apprentissages, on dit, évidemment, les voyages, c'est super, c'est formidable. Mais on ne sait pas toujours pourquoi. Moi, j'ai passé un bout de mon doctorat à essayer de détailler pourquoi c'est formidable.
Where is our
C'était Gnawa Diffusion dans Les Enfants du Nouveau Monde, un morceau extrait de l'album Fucking Cowboy, un clin d'œil au rodéo cité précédemment et une invitation au voyage, puisque c'est un des ingrédients d'un environnement éducatif libre et fertile. Alors découvrons maintenant les autres ingrédients de cette éco-éducation relevée par Thierry Pardot.
C'était le troisième ingrédient. Je rappelle la question, hein, de quoi doit être fait l'environnement éducatif. Le quatrième ingrédient, c'est les apports de ce que j'avais appelé il y a déjà quelque temps l'ethnopédagogie. C'est-à-dire, dans tous ces peuples qui n'ont pas d'école, qui n'avaient pas d'école, comment se transmettait le savoir ? Je vais faire court parce qu'évidemment, on pourra en parler très longtemps. Mais j'avais identifié cinq vecteurs. Le premier, c'est la langue. Le fait d'utiliser la langue vernaculaire, c'est-à-dire la langue qui est née ici. Parce que, voilà, par exemple, les Repunchu. Vous allez au Repunchu ? Il y en a qui vont au Repunchu ? c'est quoi les Repunchu ? C'est quelle plante ? Ah ouais, parce que par exemple dans l'Aveyron, c'est du tamier blanc ou de la brionne. Le houblon ? Ah, peut-être. Mais enfin, en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est parce que c'est la repousse de l'année, d'accord ? Quand je le dis en occitan, je sais ce que je mange. Je sais ce que je dois cueillir. Parce que souvent, autant la brionne que le tamier, ou par exemple, c'est des plantes toxiques à tous les niveaux, toute l'année, sauf la petite repousse du printemps, là, du mois de mars. Donc, le fait de nommer le pays dans sa langue, là, j'ai mis les cristaux de neige pour parler des 25 mots inuits dans la langue Inuktitut, des mots de base pour identifier la neige. Vous savez, la neige qui est un peu tombée, qui a croûté, qui a regelé, qui a fondu. Enfin, mais nous, on a pareil pour le bois. Hein, je veux dire, c'est la même chose pour le bois. Mais eux, leur matériau, c'est la neige. Donc, évidemment, ils ont tout. Le conte, qui est... alors, évidemment, il y a le conte comme expérience de culture partagée, mais il y a aussi tous les mythes fondateurs. Hein, on pourrait y passer la nuit, là, mais de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas dans une culture, hein. Il y a des contes inuits, par exemple, où il y a l'interdit de l'inceste à l'intérieur, etc. etc. Donc, on se transmet une culture à travers le conte et le mythe. La solitude aussi. Dans toutes les cultures, sauf la nôtre, à part les solitudes non choisies, urbaines et déprimantes, mais la solitude, et les enfants vivaient toujours des moments de solitude. Le jeune berger, hein, on relisait Jacques le Croquant, etc. Le jeune berger, le jeune chasseur, le jeune cueilleur. Il y a toujours des moments de solitude. Dans le système scolaire, la solitude, c'est le jour de l'examen. Vous voyez, c'est des grands moments de solitude. Des fois. Et puis, dans toutes les cultures vernaculaires, traditionnelles, je ne sais plus comment les nommer non plus, hein, parce qu'il n'y a pas de mots sans vexer, tu sais, les peuples premiers, les peuples derniers, on ne sait plus. Bon, bref. Il y a toujours un lieu où le soir, on se retrouve pour échanger. Ça s'appelle la yourte, le tipi, mais ici, le cantou, le coin du feu, le poêle à bois au Québec. Il y a toujours un lieu où on réinterprète ce qu'on a vécu dans la journée. Et puis, l'observation et l'imitation du geste. À condition, bien entendu, que ça soit l'initiative de l'observateur et non pas de l'observer. D'accord ? C'est pas je fais un A au tableau, faites comme moi. D'accord ? Ça, c'est pas la même chose. Il faut que pour que ça soit authentique, évidemment, pour que l'apprentissage se fasse, c'est à l'initiative de l'observateur. On va y revenir. Alors voilà, vous rappelez ma question, de quoi doit être fait l'environnement, mon quatrième ingrédient, je passe tout ça dans le mixeur, et ce qui ressort de tous ces apports, eh bien un environnement fait de temps et d'espace libre. Alors, pas tant pour une idée de la liberté qui serait une idée romantique de la liberté, quoique, pourquoi pas, hein, mais surtout parce que comment voulez-vous qu'un enfant grandisse dans de bonnes conditions si l'environnement et le temps ne sont pas libres? Je vous rappelle qu'un enfant qui va à l'école, ben, en général, ne choisit pas le fait d'aller à l'école. Il ne choisit pas son école, la plupart du temps. Il ne choisit pas, évidemment, le calendrier scolaire. Il ne choisit pas les horaires. Il ne choisit pas le programme. Il ne choisit pas ses professeurs. Il ne choisit pas ses condisciples. Il ne choisit pas les méthodes éducatives. Il ne choisit pas les méthodes d'évaluation. Alors, on peut quand même se demander par quel miracle ça va donner des êtres heureux, épanouis, responsables, autonomes. Vous voyez ? Comprenez, on est quand même dans quelque chose qui est complètement verrouillé. D'accord ? Donc, le temps et l'espace libre, pour pouvoir se les aménager, pour pouvoir en faire quelque chose, pour pouvoir choisir notre temps et choisir notre espace. D'accord ? Une pédagogie qui est faite aussi d'interactions fécondes. Là aussi, c'est pareil, les interactions se font avec les gens de façon naturelle, spontanée. Vous savez, un enfant, le cadeau qu'un enfant fait au monde, quand on le laisse libre, et qu'on le réinjecte, on le sort de l'école et qu'on le réinjecte dans la société, les enfants vont avoir des interactions fécondes dans le cœur de plein de monde. Parce que le regard d'un enfant sur votre travail, vous savez, mes enfants, on est au supermarché, puis là, il y a la caissière, elle a un bouton qui fait avancer, reculer le tapis. Waouh ! Vous voyez ? On peut essayer. Alors regarde, il n'y a pas son patron. Alors du coup, pop, 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 ils vont derrière, ils avancent, ils reculent, ils trouvent, oh, yeah, ils font des jeux, ils essayent de faire tomber les trucs de lait, enfin, etc. Donc, vous voyez, et là, la caissière se rend compte qu'elle a un métier formidable, en fait, qu'elle a un super pouvoir sur le tapis. Vous comprenez ? Et là, on vient de féconder le cœur de cette femme-là, parce que là, du coup, elle ne voit plus du tout. Et quand moi, je passe tout seul, je me fais engueuler. Maintenant, elle me dit, vos enfants, ils sont où ? Vous voyez ? Et alors, c'est la caissière. Je ne vous raconte pas le conducteur du camion poubelle. Alors lui, c'est un super-héros, quoi, vous voyez ? Et vous voyez ce que ça sème dans le fait de remettre des enfants dans la vie ? Ça ressème. Et du coup, moi, je découvre plein de choses parce qu'on ouvre la porte à mes enfants. Moi, qu'on m'aurait jamais ouverte, évidemment. Un exemple, printemps dernier, on a un parc à côté où il y a des jets d'eau. Là, vous savez, alors, les gars de la ville, là, bon, remettaient les jets d'eau en fonction. Et nous, on passe en vélo. Et l'IM, il dit, mon grand-fils, il dit, « Ah, c'est vous les maîtres des jets d'eau ?» Et le gars, il les regarde, il dit, « Ouais, on est des Jedi. » Et alors, je vous aime et tout. Alors du coup, voilà. Et le gars, ça, il a fait sa journée, vous voyez comme on dit. C'est-à-dire que, voilà, on réenchante. Alors les interactions fécondes, elles sont entre les enfants, elles sont de l'adulte à l'enfant, mais elles sont surtout de l'enfant à l'adulte. Et puis évidemment, vous savez, je prends l'exemple de la cabane, là, évidemment, parce comme un mini micro-espace. Mais vous savez, on dit, oh, les enfants, ils n'ont pas l'école, ils n'ont pas de règles, ils n'ont pas tout ça. Mais vous avez essayé de rentrer dans la cabane sans faire trois fois le tour du carton, passer le pont, éviter le dragon, dire le mot magique. Donc, il y a des règles très strictes, hein, dans ces micro-espaces-là. Et puis de la bienveillance. Ça, c'est mon fils, c'est son arrière-grand-père. Mais évidemment, de la bienveillance. Alors, vous dites, mais oui, mais nous, on est bienveillants. Bien sûr qu'on est bienveillants. Moi, j'ai des amis, ils sont profs dans les cégeps, là, les collèges. Au Québec, enfin on est là entre 16 et 19 ans, hein, les enfants qui sont là, enfin les enfants, les jeunes qui sont là. Alors il y a des cours par session, les sessions c'est 3 mois, d'accord ? Ils ont 250 élèves par session. Alors comment ils font pour être bienveillants ? Je ne parle pas de leur qualité humaine, personnelle, de leur envie et de leurs aspirations, mais comment ils font ? Donc voilà, la bienveillance, ben, évidemment c'est indispensable, mais dans les écoles, ben évidemment, il n'y a pas l'occasion ou peu l'occasion d'être bienveillant. En tout cas, ce n'est pas les meilleures situations, le meilleur environnement pour l'être, quoi. Et puis, je parlais de l'observation-imitation. Alors, j'adore la photo qu'il y a sur la gauche. Là. Vous voyez, on est sous un amandier. L'IM a trouvé des amandes. Pas efficace, des amandes, il mange des amandes. Le petit à côté, il se dit, oh, moi aussi, je veux manger des amandes. Oui. Vous le voyez, le petit regard en coin là. Vous voyez, l'observation-imitation. Là, on est complètement dans de l'apprentissage. Là, on est exactement... Alors, j'adore cette photo parce qu'elle saisit exactement ce moment-là. C'est quand même un coup de chance, là. Voilà. Après, il a essayé, le petit, de faire des petits bonhommes en palmier, là. Vous savez, des petits chameaux en palmier, comme les jeunes font au Maroc. Ça a été plus compliqué. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours cette logique d'observation et d'imitation. D'accord ? Évidemment, on attend d'avoir un environnement dans lequel il y a quelque chose à observer et quelque chose à imiter. Parce que dans un environnement clinique, c'est plus compliqué, vous voyez ? Parce que... Le savoir complexe ne s'enseigne pas. pour ma part, on peut pas obligé d'accord, hein, d'être d'accord, mais la complexité ne s'enseigne pas. Le coup d'œil maquignon, là, qui en deux secondes vous dit le prix d'une vache, ça ne s'enseigne pas, ça s'expérimente, mais ça ne s'enseigne pas. Je peux pas vous, si moi je pas cette compétence là, mais si je l'avais, je peux pas vous la télécharger, quoi. Vous voyez, c'est juste pas possible, quoi.
Vous venez d'écouter La Phase avec No Backyard et c'est Thierry Pardot, docteur en sciences de l'éducation, qui est l'invité des Enfants du Nouveau Monde.
Alors, là c'est le moment un peu compliqué, pas pour les gens qui sont des professionnels de l'éducation, mais peut-être pour d'autres, un rapport à la connaissance qui soit interstructuré. Alors ce que ça veut dire, c'est que quand on est, vous savez, quand on est un pédagogue, un éducateur, un parent, on marche sur un fil entre deux grands fossés. Le premier, c'est de dire, voilà, je vais te déverser dans la tête tout le savoir accumulé de l'humanité. Vous savez, au bout de deux minutes, le gamin, il est ailleurs, hein, d'accord ? Mais à la fois, je ne peux pas lui dire, ah, mais je ne vais rien te dire. C'est-à-dire, théorème de Pythagore, ah, débrouille-toi. Alors, d'ailleurs, allez, théorème de Pythagore, allez-y, je vous écoute. Alors, c'est quoi, d'où ça vient, comment ça marche ? Oui, non, ça, c'est les formules. Mais d'où ça sort ? D'où ça vient, ça ? Vous connaissez ça ? C'est toute l'architecture égyptienne et grecque. La corde à 13 nœuds. Vous connaissez la corde à 13 nœuds ? Eh bien, la corde à 13 nœuds, quand Pythagore il se retrouve en Égypte, il y a 25 ans en Égypte, quand même Pythagore, donc il a quand même eu le temps d'en profiter. Il se retrouve avec il voit des bâtiments formidables et tout ça, toute une architecture qui était un peu gardée secrète et tout ça, mais il dit, mais comment ça marche ? Comment vous arrivez ne serait-ce qu'à avoir des angles droits parfaits, quoi ? Alors il dit, ben, en fait, on utilise la corde à 13 nœuds, même pour calculer, par exemple, pour faire des calculs des fois simples, mais des fois les ouvriers, ben, ils n'étaient pas trop formés. Alors, par exemple, on avait, si je veux faire 3 fois 2, ben, je prends deux espaces entre les nœuds, je vais la plier une fois, je vais la plier deux fois, et je vais avoir 3 fois 2, 6. Ça veut dire que ma corde, je vais la plier, et que je vais la multiplier. Et pourquoi le mot multiplier ? La corde à 13 nœuds. Le théorème de Pythagore, il se rend compte que finalement, si j'en prends, ben là il me manquerait deux bras pour pouvoir le faire, mais vous voyez, si j'en prends 3 d'un côté, 4 de l'autre, 5 de l'autre, d'accord ? À une diagonale de 5 espaces, une diagonale de 3, une diagonale de, enfin, un côté à 4, un côté à 3, eh bien je vais me retrouver avec un angle droit parfait. D'accord ? Vous voyez, je vais essayer. Hein. Voilà. Et alors il se dit, mais c'est quoi le rapport entre le 3, le 4 et le 5 ? Comment je pourrais retrouver cette proportion avec n'importe quel chiffre ? Parce que 3 plus 4, ça ne fait pas 5. Enfin, vous voyez, donc, il se rend compte que s'il met tout au carré, ça fonctionne. Parce que 3 au carré, 9, 16 au carré, enfin 4 au carré, 16, 5 au carré, 25. Et là, 9 plus 16, 25, paf, ça marche. D'accord ? D'ailleurs, racine carrée. Est-ce que vous saviez que la racine carrée, attention, une révélation ce soir pour vous, la racine carrée est la racine d'un carré ? C'est-à-dire que j'ai un carré avec 9 cubes. Si je prends la racine de ce carré de 9 cubes, c'est 3. Si mon cube était le tronc d'un arbre, vous voyez, si je prends la racine, j'aurais 3 petits cubes en bas. Je prends un carré, d'accord ? Comme un Rubik's cube, là, tu vois ? Et puis, il y a 9 petits cubes à l'intérieur de mon carré. Si je prends juste la ligne du bas, j'en ai que 3. D'accord ? 3, 6 et 9. D'accord ? Donc, si je prends la racine de mon carré, la racine du carré de 9, c'est 3. Et ça marche avec la racine cubique aussi, évidemment. OK ? Etc, etc. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça ? C'est pas pour faire une conférence sur les mathématiques, mais pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que, à partir du moment où je me pose la question, et que j'y vais par la question plutôt que d'y aller par la réponse, voilà pourquoi vous n'oublierez plus que multiplier, ça vient de la corde, et que la racine carrée, c'est la racine d'un carré. Parce que j'y vais par la question, et non pas par la réponse. Voilà ce qui nous permet de rester sur le fil. Concrètement, pourquoi j'ai mis l'histoire du feu ? Parce qu'au début, je jette des branches, je mets une allumette, ça ne marche pas. Mais si je deviens plus sérieux, plus méticuleux, plus attentionné, eh bien, au bout d'un moment, je pourrais faire du feu dans n'importe quelle circonstance. Et pendant que je fais le feu, ben, c'est le feu qui me fait, qui me rend plus méticuleux, plus attentionné, plus précis, plus patient. Et Bouvier qui disait au début, on pense qu'on va faire un voyage, finalement c'est le voyage qui vous fait. Et c'est la même logique. Quand on fait une sortie botanique, vous savez, on a connu la grande époque de « Alors les enfants, je vais vous donner 50 noms de fleurs, si vous en retenez 4, c'est bien. » Ce qui pédagogiquement, vous avez connu ça ? Oui. Ce qui pédagogiquement voulait dire « Alors, je ne sais absolument pas comment m'adapter à vous, alors j'y vais comme d'habitude, retenez ce que vous pouvez. » Vous voyez, c'était à peu près ça, quoi. Mais si vous leur dites, vous commencez à manger, je ne sais pas, de la mélange ou je ne sais pas quoi, et puis là, vous dites « Ah, mais c'est quoi ce starbuste ? Comment je peux en manger aussi ? Ben, attends, je ne sais pas, comment on le reconnaît ?» Ah ben alors il est comme ça, comme ça, comme ça. Ben tiens, si ces trois critères-là, tu vas les dire à ton copain là-bas, est-ce qu'il est capable de le retrouver, cet arbre-là ? Et donc là, on vient de créer une clé de détermination. Et à partir de là, on comprend qu'on n'est pas le premier humain à se poser cette question-là. Et on peut ouvrir la flore de Coste et la flore de je ne sais pas qui. Parce qu'on s'est posé la question, on arrive à des réponses. Vous voyez ? Donc c'est ça, le savoir interstructuré. Pendant que je structure le savoir me structure. D'accord ? Est-ce que ça va ? Personne ne s'est fait mal ? Allez, je continue, si tout va bien. Alors, le problème de la connaissance, c'est qu'elle est complexe. Et comme je le disais, on ne peut pas enseigner la complexité. La complexité, elle s'expérimente, mais on ne peut pas l'enseigner. Et elle s'expérimente de façon globale. Vous savez, une technique d'aïkido, c'est comme une symphonie de Mozart, vous voyez ? Si je commence à vous raconter chaque détail qu'il y a à l'intérieur et que le quatrième violon, à un moment donné, sur le sol, il fait un petit vibrato, vous voyez, on mourra avant qu'on ait tout expliqué. Donc, vous retenez l'air en général et ensuite, vous connaîtrez les détails à force de l'expérimenter. Parce que la complexité ne s'enseigne pas. C'est ça aussi dans la connaissance qui est interstructurée. Alors le problème des activités telles que d'espace libre, de temps libre et tout ça, c'est qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'on fait. Moi je m'étais amusé, c'est tellement lié à la vie qu'on ne sait plus où on en est. Moi je m'étais amusé à compter ce qu'on faisait avec les enfants comme activité formelle, c'est pour voir un petit peu. Alors évidemment c'était l'hiver, on n'a pas beaucoup jardiné, mais on a abordé toutes sortes de choses et je m'étais amusé à les compter. Et en fait on a des vies, on est tout le temps en apprentissage en fait dans ce genre de formule. Allez, là c'est le truc un peu compliqué, après vous allez voir c'est presque fini. Sur la première colonne, c'est l'école à l'ancienne. Vous savez, c'est l'école que j'ai connue, moi. Vous savez, un peu la blouse grise, la règle sur les doigts, tout ça. Alors, on était dans une approche disciplinaire, science positiviste, le programme formel, les savoirs, la didactique. On est en classe, on a des méthodes explicatives du prof vers l'élève, des acquisitions de savoir en discipline. L'évaluation est normative, il faut passer tel cap et on a la note. Vous voyez, ça, c'est l'école à l'ancienne. Aujourd'hui, on est plus dans quelque chose d'interdisciplinaire, transdisciplinaire, le dialogue de savoir, la compréhension. On est dans les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être, les savoir-agir. En tout cas, c'est ce qu'on prétend. Mais en tout cas, c'est ça qui est présenté dans les écoles. On est dans les classes alternatives, les méthodes compréhensives, non plus explicatives, mais compréhensives. On est dans le développement des compétences transversales, parce qu'on sait que quand on fait un exposé, ça entraîne plusieurs compétences. Et l'évaluation, elle est formative, on a toujours la note, mais avec le vieux commentaire qu'on a tous eu, peut mieux faire. Vous savez. Donc voilà, ça c'est l'école d'aujourd'hui. Ce que je présente aujourd'hui, ça représente la troisième colonne. Parce que la vie, vous savez, elle n'est pas interdisciplinaire, transdisciplinaire, codisciplinaire, ou je ne sais pas. La vie, elle est indisciplinée et indisciplinaire, la preuve. D'accord ? C'est ça, la vie. Évidemment, on parle de nomadisme intellectuel, des formes d'autodidaxie. Vous savez, quand une cohorte d'étudiants arrive collectivement, ils en savent plus que n'importe quel prof. Donc, on est dans ces autodidaxies, on est dans ces apports-là. La vacuité, la disponibilité pour laisser exprimer tout ça. On est dans le savoir apprécier, le savoir ne pas faire. C'est important ça, vous savez que c'est les mêmes neurones qui sont activés quand vous faites et quand vous ne faites pas. C'est Jungle Speed, vous connaissez le jeu Jungle Speed, il faut attraper le totem là. Il y a des fois il faut, des fois il ne faut pas. Mais c'est les mêmes parties du cerveau qui fonctionnent, pour faire et pas faire. Donc il y a des méthodes de lecture où par exemple on prend un enfant, on lui demande de lire, et à côté on assoit un enfant dont la consigne est de ne pas lire. Parce qu'en se forçant à ne pas lire, il active les mêmes parties du cerveau que s'il était en train de lire. Et donc les deux se développent. Le savoir laisser faire, évidemment, là, on n'est plus dans une didactique, une pédagogie, mais dans l'émergence, l'incidence. On prend ce qui se présente. On est dans les alternatives à la classe, dans le bricolage méthodologique. Il y a des chercheurs derrière chacune de ces notions. Hein. Là, je balance ça un peu comme si j'avais fait un brainstorming. Là. Mais non, il y a des références derrière tout ça. Hein. On est dans les savoirs de circonstance, les savoirs autonomes, les compétences inattendues. Eh bien oui, parce que vous savez, le didacticien n'obtient que ce qu'il prévoit d'obtenir, évidemment. On est dans le savoir fugitif. Vous savez, la progression, comment on appelle ça à l'école, la progression des compétences ou l'acquisition progressive des compétences ne sont là que pour assurer l'évaluateur. Parce que n'importe qui a appris une fois dans sa vie sait que ça ne marche pas comme ça. Vous faites du piano, vous essayez, ça ne marche pas, vous laissez tomber. Ça fait comme 10 fois que vous faites la même erreur, vous le laissez tomber. Vous revenez 15 jours plus tard, puis là ça marche, vous échangez un peu la diapo. Et puis finalement vous l'apprenez, puis vous l'oubliez, puis vous y revenez. Puis, vous voyez, c'est comme ça, c'est en dents de scie. C'est parce qu'un enfant, par exemple, vous savez quand on dit on n'utilise que 10% de notre cerveau. En fait c'est vrai, c'est qu'on n'utilise que 10% à la fois de notre cerveau. D'accord ? Donc on appréhende une connaissance par une partie du cerveau. Et que d'un coup... Parce qu'on grandit, d'un coup on va appréhender la même connaissance par une autre partie du cerveau, et bien on recommence à zéro. Alors c'est pour ça que l'évaluation progressive des compétences, c'est une vue de l'esprit. Ça ne rassure que l'évaluateur qui sait que tel jour, telle heure, l'enfant doit avoir appris ça. Mais ça, vous savez, il faut apprendre à marcher à 18 mois vers midi et demi, vous voyez, c'est ça le truc, quoi. Évidemment, là, il n'y a pas d'évaluation possible chiffrée. C'est une évaluation qui est cheminative. On parle des parcours de vie. Il n'y a que ça qui peut rendre compte. Allez, j'ai presque fini. Et alors, notre utilité sociale, évidemment, à nous qui n'allons pas à l'école, etc., c'est qu'on est des pirates par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on fait ailleurs autre chose autrement. On ne cherche pas à changer le système par l'intérieur. C'est utile, hein, il y en a qui le font, et tant mieux. On ne cherche pas à changer le système en tapant sur le système de l'extérieur, comme un syndicat, les parents d'élèves, etc. C'est aussi très utile. Il y en a qui le font, et tant mieux. Mais nous, on fait autre chose ailleurs autrement. On démode le système, vous comprenez ? Alors, du coup, ben, la morale est sauve. Ben oui, parce que vous savez, les pirates, ils n'avaient pas d'assurance vie. Ils étaient obligés d'être meilleurs que les marines marchandes et les marines des États. Alors, ils les ont obligés à réformer leur marine, parce que sinon, les autres, ils ne suivaient pas, vous voyez. Et les gens, en plus, se barraient dans la piraterie, parce qu'ils étaient mieux considérés. Or, c'est un peu ça qui se passe, hein, en ce moment. Allez, je finis avec cette photo, juste là. C'est que tout ce que ça demande comme posture en tant qu'adulte, c'est une confiance inébranlable en l'enfant, en fait. Il est là, le truc. Et que l'enfant va apprendre. Vous voyez, là, on est dans le lâcher-prise, vous voyez. Il n'y a que des enfants, ils sont autour d'un feu. Ils mangent des guimauves, là, vous savez, à se faire griller, là. Alors, c'est la nuit, ils sont entre deux bras de rivière, il n'y a pas un adulte. Ils se sont allumés le feu tout seuls. Mon fils en rouge au milieu, il a mangé 4 kilos de guimauve. Et j'aime bien aussi cette photo qui fait un peu les enfants perdus de Peter Pan. Il y a un des garçons, là, Esteban, un des deux jumeaux là, qu'on voit. Une fois, il était en voyage, puis ça résume. Vous savez, les mots d'enfant, des fois, c'est assez puissant. Et qui résume en trois mots tout ce que je viens de vous dire ce soir. C'est qu'ils étaient en voyage et il y a une dame qui lui dit « Ah, mais alors comme ça, vous n'allez pas à l'école ?» Et Esteban répond « Ben, c'est qu'on n'a pas vraiment le temps. » Mais... Donc voilà, en gros, ce que j'avais à vous dire ce soir sur ces éducations-là qui demandent évidemment beaucoup de confiance, beaucoup de temps, mais qui laissent les enfants tranquilles, quoi. Voilà.
My gang will get you. Retrouvez les enfants du Nouveau Monde tous les lundis, une semaine sur deux, le matin ou le soir, soit 8h30, 9h30, soit 18h30, 19h30 sur Radio 16. Toutes les émissions sont également écoutables quand vous voulez sur radio16.net.